Aujourd'hui, on reçoit Nicolas Beau et Olivier Tosser, qui publiaient il y a quelques semaines aux éditions Les Arènes une imposture française, un livre autour du personnage de BHL. Fred, tu t'es penché sur l'ouvrage.
Oui, on a été nombreux à le faire. On va être honnête avec nos quelques auditeurs qui sont restés, donc qui ont adoré cette inventivité sonore du groupe que nous présentait Guillaume. Oui, sur ce livre, alors BHL, on en parle. Tout le temps, enfin, pas dans cette émission, et justement, c'est ça qui a fait débat, justement. Faut-il en parler, encore une fois? En tout cas, la première question, ou remarque, en tout cas, que je voulais vous faire, c'est pourquoi en rajouter une couche sur BHL? Il y a déjà eu deux, trois livres, apparemment, qui ont été édités ces dernières années. Est-ce que... c'est quoi, vous le détestez tant que ça, BHL?
Non, c'est absolument pas qu'on le déteste. Non, on voulait juste
nous encombre.
Nous encombre un peu. On voulait savoir comment un philosophe qui n'est enseigné nulle part, comment un écrivain qui n'a pas d'œuvre littéraire, comment un journaliste qui mélange le vrai et le faux, comment quelqu'un comme ça pouvait être l'arbitre des élégances dans le monde médiatique actuel. Comment quelqu'un comme ça pouvait décider ce qu'il faut dire, ce qu'on a le droit de dire, ce qu'on n'a pas le droit de dire. Voilà, donc on s'est penché dans cette enquête sur le réseau BHL et on est tombé sur, sur un système de clientélisme très très fin qui fait que en usant de différents pouvoirs, à la fois médiatiques, à la fois économiques, à la fois politiques, est devenu une espèce d'icône qui empêche le débat public normal quoi, de se dérouler.
Alors peut-être on peut présenter d'abord un petit peu ce personnage qui est donc Bernard-Henri Lévy, qui est déjà bien né, avec une cuillère d'argent dans la bouche quand même.
C'est-à-dire que son père avait une entreprise d'import-export de bois qui marchait très bien, bon. Et notamment, il a beaucoup travaillé en Afrique, au Cameroun, au Gabon, etc. Alors, justement, c'est un peu penché, bon, un petit peu sur les conditions dans lesquelles son père a fait fortune en Afrique. Bon, on a découvert à travers des rapports d'ONG qui ne sont jamais sortis, ce qui est tout à fait surprenant, parce que c'était pas non plus si compliqué que ça de trouver ces rapports d'ONG, et bien que les conditions dans lesquelles le bois était exploité en Afrique n'étaient pas moyennes, que les salariés africains, salariés, c'est-à-dire beaucoup dire, à mon avis, ils étaient certainement pas avec un contrat de travail, etc. Donc ils étaient dans des conditions épouvantables. Bon, donc en fait, c'était le père de Bernard Lévy était un exploiteur, en Afrique. Bon, et alors évidemment, l'argument de Bernard Lévy, c'est de dire, mais il ne faudra pas toucher à mon père. Mon père est mort, quand on commence à s'attaquer à mon père, ces gens qui s'attaquent à mon père, il l'a dit à l'émission de Guillaume Durand, etc. Bon. Alors l'argument ne tient pas du tout, parce que, la fortune de son père, il a quand même hérité, donc quand même quand on est d'une fortune, on est quand même redevable de la façon dont cette fortune a été amassée. Bon. Deuxièmement,
il a lui-même dirigé
l'entreprise aux côtés de son père, et à la mort de son père en 1995, il l'a dirigé là, au premier plan pendant 2 ans. Mais et, bon. Donc, à partir de là, on trouve qu'évidemment, il faut parler de la façon dont il a dirigé cette société de bois et dont il, ensuite, comme vous dites, il a bénéficié d'un héritage extrêmement important.
Et jusqu'à présent, il s'était toujours arrangé pour qu'on ne le sache pas. C'est-à-dire que les rares journalistes qui s'étaient penchés déjà sur cet aspect des choses, sur savoir d'où venait la fortune, est-ce qu'elle était importante ou pas, n'avaient jamais réussi à publier leurs papiers, en fait, leurs articles, parce que Bernard-Henri Lévy, ça sa force, c'est la force de son réseau, il est au courant de tout ce que, en gros, de tout ce qui se prépare dans la rédaction de France et de Navarre sur lui, et il intervient pour bloquer les articles, il intervient au plus haut niveau.
Alors, il intervient notamment à travers les liens qu'il a tissés avec deux grands patrons français, qui sont en même temps des grands patrons de presse, un qui est François Pinault, et qui possède Le Point, qui possède la FNAC, etc. Et le deuxième, bon, qui est mort maintenant, Jean-Luc Lagardère, qui possède une grande partie de la presse française. Et donc là, il a plus que ses entrées. Bon, sans parler des réseaux qui s'est lui-même constitué par des liens divers et variés avec les principaux patrons de rédaction. Bon, mais donc il a agi. Effectivement, on a retrouvé des journalistes qui ont été totalement censurés, faut dire, qui n'ont pas pu simplement publier un article alors qu'ils avaient fait l'enquête, ils avaient été en Afrique, ils avaient bon. Découvert la façon dont ça se passait.
Parce que si un truc qui si on vous suit dans votre livre, c'est qu'il a une vraie capacité à créer autour de lui des gens qui se sentent obligés, qui vont le défendre. Il y a quelque chose qui est assez inquiétante si on suit la version que vous proposez du personnage, c'est qu'il crée en permanence des gens qu'il défend envers et contre tout, et lui-même les défend. Enfin, il y a une espèce d'entre-soi,
de clientélisme, absolument. Mais on cite dans le livre une histoire qui est assez aberrante d'ailleurs, qui concerne l'hebdomadaire Marianne. À un moment donné, Marianne avait eu des problèmes de fin de mois. BHL a offert ses services d'entremetteur. Il a été voir son ami François Pinault, donc un des hommes les plus riches de France. Et François Pinault a assuré, à travers un prêt discret en tout cas, les fins de mois de Marianne en prêtant de l'argent au fondateur de Marianne, Jean-François Kahn et Maurice Safran. Ensuite, Marianne est sauvée. Et donc, à partir de ce moment-là, les gens de Marianne ne peuvent plus rien écrire d'indépendant sur BHL.
Et sur François Pinault non plus.
Sur François Pinault non plus. Et on sort dans le livre, on est tombé sur un article, sur un petit article un peu critique qu'avait écrit Jean-François Kahn sur BHL, un peu critique. Jean-François Kahn, l'écrit, l'article est maquetté, il est prêt à être publié dans le journal, et au dernier moment, il est censuré dans son propre journal. Donc un directeur du journal censuré dans son propre journal. Ça, c'est la force de BHL, c'est vraiment le seul qui peut faire ça, quoi.
En même temps, ce que vous décrivez, c'est aussi beaucoup un système médiatique, parce que
absolument,
ce qui est valable pour BHL, malheureusement, est valable aussi.
On l'a pris comme un symptôme du
alors,
système médiatique.
En quoi c'est un symptôme, et un symptôme peut-être, enfin, en tout cas d'après vous, plus révélateur que d'autres?
Parce que je crois parce qu'on l'a pris comme symptôme, parce que c'est, à mon avis, de loin aujourd'hui le plus efficace de ces réseaux qui traversent les médias, la politique, l'édition, etc. Bon, BHL constitue autour de lui un formidable réseau, et il faut reconnaître un certain talent, parce que, bon, c'est une PME. Bon, BHL, bon, il a beaucoup d'argent qui lui permet quand même d'alimenter son clientélisme, il a beaucoup de moyens, etc. Mais il a aussi une belle énergie, et en fait, il a réussi à constituer probablement aujourd'hui le réseau médiatico-politique, le plus efficace. Donc c'est pour ça qu'il nous a intéressés. Mais vous dites, c'est vrai que par ailleurs, les idées de Bernard Lévy, son œuvre, tout ça, nous laisse assez indifférents, et on ne s'est pas du tout penché là-dessus. Contrairement au premier livre publié sur lui, bon, et qui de fait ont eu peu d'écho, peut-être parce que la vie et l'œuvre de Bernard Lévy n'intéressent pas tant que ça. Les lecteurs.
Ouais, c'est une question que je me pose. Est-ce qu'il vend ses livres? Est-ce que il a du succès?
Il les vend bien. Surtout pour de mauvaises raisons. Les mauvaises raisons, c'est qu'apparemment il y a un matraquage, notamment télévisuel. Et depuis 10 ans, il soigne notamment ses liens avec les Ardisson, Guillaume Durand, et autres, Carl Zéro. Et donc il a donc une entrée sur tous ces plateaux de télévision. Et on le voit en ce moment à travers la sortie de son livre sur les États-Unis. Bon. Qui en voit un autre, hein. C'est un livre du reportage aux États-Unis pendant 6 mois. Bon, il écrit pas mal, alors il se prend pour Tocqueville, c'est le problème, mais enfin bon, c'est son problème. Mais le problème vrai, c'est le problème de tous ces gens qui l'invitent pendant des heures, bon, et lui déroule un tapis rouge en lui posant même pas des questions légitimes. Que, en plus, ils sont pas. Les Guillaume Durand, Ardisson, on en pense ce qu'on veut, mais c'est pas des imbéciles totalement. Donc pourquoi, à un moment, ils posent des questions aussi plates, aussi. Et aussi convenu, c'est ça qui est grave. Et donc ça renvoie à la responsabilité de tous ces. Alors, comme aujourd'hui, ce sont les principaux prescripteurs de livres, malheureusement. Et les gens, quand ils ont vu 3 émissions de télé, ont parlé de Bernard Lévy, au journal télévisé où il passait encore lundi ou mardi soir, je ne sais plus, ils achètent le livre. C'est une marque, ça devient une marque.
C'est vu à la
télé.
Même
principe que la publicité pour les produits de ménage. Malheureusement, c'est. Voilà.
Mais alors justement, pourquoi est-ce qu'ils lui servent la soupe? Il y a un vrai. C'est quand même. Enfin, je vais dire une banalité, mais c'est connu que BHL n'est porteur d'aucune théorie, d'aucun mouvement, d'aucune. C'est un philosophe sans œuvre, c'est vous qui le dites, effectivement. Mais pourquoi est-ce que lui, on va le prendre, parce que moi, c'est ce qui m'a intéressé dans le livre, c'est lui comme symptôme d'un système qui dysfonctionne. Pourquoi lui et d'autres qui pensent le rien, ou qui pensent peu
Parce qu'il a quand même du pouvoir, parce qu'il a des relations. Je prends juste un exemple. Quelqu'un comme Ardisson, par exemple, sait que BHL peut l'aider. C'est-à-dire que quand son émission va moins bien, quand il est menacé, quand il risque de la perdre, Bah, Behçet intervient. Il va voir d'ailleurs d'abord les hommes politiques qu'il connaît. Comme Behçet est un ami personnel de Sarkozy, de Villepin, il plaide la cause de son ami Ardisson, par exemple, auprès des politiques. Il plaide la cause de son ami Ardisson auprès des patrons de chaînes de télé qu'il connaît.
Pour obtenir une émission de télévision. Ouais. Actuellement, Ardisson a des projets au Maroc. Il veut lancer une chaîne au Maroc. Ben, qui va la financer? C'est Bernard Lévy, qui a des très, 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 beaux, très belles demeures là, et à Marrakech et à Tanger. Bon, et l'essentiel de sa fortune est d'ailleurs sur des comptes bancaires discrets au Maroc. Bon. Eh bien, il va probablement, avec cet argent discret, bon, financer la télévision. Donc Ardisson a tout d'un coup envie d'aller au Maroc, je ne sais pas, peut-être pour prendre le soleil, je ne sais pas quoi. Et du coup, bon, ben, lui dit, bon, ben moi, je t'aide, je finance. Voilà, c'est tous ces petits services-là, bon, qui ne sont quand même pas des petits services, d'ailleurs, parce que ça représente quand même des aides substantielles. Et puis, au-delà... Je crois qu'il y a une espèce après de mythologie autour de Bernard Lévy, et les gens se disent c'est franchement il est puissant ce homme-là, si on l'attaque ça risque de se retourner contre nous. Et enfin il y a une espèce de lâcheté générale qui fait qu'on le crédite de, certainement beaucoup plus de pouvoir qu'il a. Si vous voulez, Sarkozy aujourd'hui comme ministre de l'Intérieur d'abord, bon, c'est un homme qui a un pouvoir gigantesque, comme éventuel futur président de la République, bon, qu'on le craigne, que des gens aient peur de s'attaquer à lui. Bon, peut-être par lâcheté ou par conformisme, mais je veux dire, on peut les comprendre. Alors que c'est vrai que Bernard Lévy, et votre question là-dessus est tout à fait, moi je trouve pertinent, parce que c'est vrai que beaucoup ces pouvoirs de rétorsion sont quand même réduits, ou ils sont pas ricochés, parce qu'effectivement, il connaît très bien Sarkozy, Villepin, Strauss-Kahn, Fabius, il ne prend pas les moins influents, hein, des hommes politiques, bon, ou des hommes, etc. Mais c'est vrai qu'il y a aussi simplement. À mon avis, on survalorise la puissance de tir de Bernard Lévy. Nous, on est toujours vivants.
On en parlera justement aussi.
Alors, avant votre livre, il y en avait un autre qui s'était attaqué à BHL, c'était Renault.
Absolument.
Donc on va écouter le titre, ça s'appelle L'Entarté.
Attentat pâtissier, ah, qu'est-ce qui nous a fait marrer? Le philosophe des beaux quartiers, la chemise blanche en décolleté, la suffisance est son métier, mais putain ce qu'on a rigolé quand il a voulu se révolter avec ses petits poings crispés, l'entarté. 10 fois, 20 fois fut humilié par de la simple crème fouettée, espère s'en relever, j'ai peur que ce soit mal barré. Nous a bien rangé de ce Jean-Paul Sartre dévalué qui vient nous pondre à la télé ses vieux discours bien éculés. L'entarté, l'idole de Saint-Germain-des-Prés, bien qu'il écrive avec ses pieds à la prétention insensée de nous dire ce qu'il faut penser aux flore, aux tomagos plantés devant une coupe millésimée, il refait le monde persuadé d'avoir un rôle à y jouer. S'est essayé au ciné, la France entière a rigolé lorsque les salles n'ont pas été au milieu du film déserté. En Bosnie, il a bien tenté jouer les héros, les Hemingway, reporter de guerre embusqué, l'Antarcte a joui par les mortiers. L'Antarcte, la mère Beauvoir pour fiancer serait bien plu à l'Antarcte. Il semble qu'il se soit maqué avec une petite bien mieux roulée, poupée Barbie bien allumée. Mais non, j'ai pas dit déjanté, malgré ses cheveux peroxydés, les plus sympas que son simplet. L'entarté, entarteurs par milliers, je vais moi-même apprendre le métier. Il y en a bientôt qui vont trinquer, c'est pas les cibles qui vont manquer. Oublions ce pauvre PHV, là suffisamment dérouillé. Il y a d'autres pédants à s'occuper que ce pauvre garçon trop bien coiffé. Et surtout, longue vie à le croupier. L'entarté.
Voilà, c'était Renaud qui, quand il appelle pas à voter oui pour le référendum, dit encore des trucs qui nous font rire. On est toujours avec Nicolas Beau et Olivier Tosser qui publient une imposture française autour de BHL. BHL deux fois, entarté deux fois au Salon du Livre ce week-end. Beau score de...
Oui, il avait apporté qu'une chemise, donc la deuxième fois, il était obligé de partir. Il s'est changé, et puis après, boum, il ne s'attendait pas. Hein.
Et détient donc le record du monde de l'entartrage. Hein. Ça n'a jamais été autant. Hein.
C'est vrai.
Alors, on voudrait quand même, pour revenir un petit peu sur les conditions dans lesquelles on fait un livre comme celui-là, j'ai eu deux impressions en vous lisant. C'est que d'abord, vous avez beaucoup d'informations, de trucs qui ne sont pas sortis, d'entretiens, d'articles qui n'ont jamais été publiés. Alors, ça montre peut-être votre bonne intégration au milieu des journalistes. Mais est-ce que ça montre...
C'est une critique ou...
Non, j'ai essayé d'analyser la situation.
Non, mais pour répondre à ça, juste vous dire que c'est vrai que le système de Bernard Lévy, moi, il me fait penser à un système féodal, ou le système qu'il représente, qu'il incarne, c'est-à-dire où il y a ces espèces de grands féodaux de la presse, des médias, ces patrons de chaînes, ces patrons de grandes émissions, ces BHL, ces quelques patrons de rédaction de la presse parisienne, qui dominait un peu le paysage, qui se rendent des services, et en face, il y a une espèce de tiers-état des journalistes, qui sont quand même, si vous voulez, des gens qui font leur travail, bon, et qui, en ont plus qu'assez de ce personnage. Et donc, quand vous avez deux journalistes qui vont travailler là-dessus, ben, c'est vrai qu'on a été très aidés par les confrères, qui à un moment sont contents d'avoir là un canal par lequel, bon, et c'est vrai qu'il y a un ensemble de documents qu'on a eu par des gens qu'on connaissait dans différentes rédactions, même au journal Elle. Bon, a priori, on n'imagine pas forcément qu'au journal Elle, il y a des rebelles. Eh bien, si, des rebelles du fond de teint, ou je ne sais pas. Non, mais donc, il y a quand même une espèce de solidarité de journalistes qui simplement veulent exercer leur métier dans des conditions correctes, quoi.
Oui, parce que quand on vous lit, c'est vrai qu'on a de cesse de se poser la question comment finalement vous y êtes. On arrive à faire ce livre alors que vous démontrez qu'il est difficile pour un journaliste de publier un article sur BHL. Alors, effectivement, pour l'un d'entre vous est au Canard Enchaîné et l'autre au Nouvel Obs. Pour le Canard Enchaîné, on comprend qu'il soit habitué à subir des pressions, mais à garder sa liberté de ton. Pour le Nouvel Observateur, un petit peu moins. Donc, comment vous avez comment vous avez géré cette enquête et quelle pression vous avez subi, puisque vous avez dû en subir un petit peu.
Non, mais d'abord l'enquête, on la publie dans un livre et chez un éditeur indépendant qui résiste à toutes les pressions. Voilà.
Parce que ça n'aurait pas été possible chez une grande maison d'édition, par exemple.
Bah, ça aurait été beaucoup plus compliqué parce qu'une grande maison d'édition a forcément un correspondant BHLien, quoi, quelque part. Il a des gens partout.
Il y a déjà la moitié des maisons d'édition qui appartiennent à Hachette, donc voilà. À Lagardère, donc voilà. Il fait des armes quelquefois, de la presse ou des éditions. Bon, donc déjà, c'est fini. Là, vous n'avez pas peine de s'y présenter. Bon, même moi, j'ai un ami qui vient de sortir un livre sur le Maroc, là, sur les liens de Chirac et de Mohamed VI. Eh ben, il est édité avant chez Grasset, propriété de Hachette, où d'ailleurs Bernard Lévy a un rôle considérable. Ouais. Le patron de Grasset lui a dit, sur le Maroc, non, Bernard Lévy, qui passe ses vacances, enfin plus que ses vacances, qui a ses deux magnifiques demeures, non, il n'est pas question que vous publiez chez nous. Voilà, c'est réglé. Donc déjà, bon. Et puis dans les autres maisons, c'est vrai que Bernard Lévy se débrouille pour avoir des relais fort influents, et donc pour trouver une maison d'édition qui prenne le risque de publier ce livre, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Et qu'on a eu la chance de tomber chez un éditeur indépendant, quoi, simplement.
Voilà, donc en fait, il faut un éditeur indépendant, et après, il faut aussi arrêter d'avoir peur de son ombre. Et, Nicolas et moi, on n'a pas eu peur d'enquêter là-dessus, et parce qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. Voilà, on est toujours vivant, on est toujours là.
Non, ce qui est vrai, c'est qu'on est dans les journaux où on va pas être licencié parce qu'on a écrit sur Bernard Lévy. Bon, y a quand même un minimum de vie démocratique et au Canard et au Nouvel Observateur. Donc même si un patron d'une de ces rédactions imaginait une telle issue, bon, il y a des rédactions qui où c'est pas possible. Bon, et ça, ce sont deux rédactions où ça se passe pas comme ça. Bon, mais c'est vrai que on serait dans d'autres journaux, ça aurait été beaucoup plus inconfortable.
Oui, parce que alors nous, on a découvert en préparant cette émission que le Nouvel Observateur était encore indépendant, enfin capitalistiquement, c'était absolument, encore c'est indépendant. Mais on est tellement plus habitué à ce que un magazine qui titre sur le salaire des cadres n'appartienne pas à un grand groupe qui vend des armes qu'on était, on en était surpris.
Non, mais le Canard enchaîné et le Nouvel Observateur sont deux des rares journaux encore indépendants en France. Je suis désolé, c'est comme ça, mais c'est quand même un certain confort pour l'un et pour l'autre.
Alors moi, en lisant votre livre, j'ai eu l'impression aussi qu'il y avait quand même une très très grande précaution, c'est surtout ne prêtons pas le flanc à un procès qui nous mettrait un genou à terre. On a l'impression qu'à chaque fois que vous envoyez une info ou que vous démontez quelque chose, sous la semelle, il vous en reste encore beaucoup, beaucoup. Est-ce que c'est comme ça que vous l'avez réfléchi? C'est surtout pas aller au procès, surtout pas mettre en péril une maison d'édition indépendante. Comment ça se passe quand on fabrique un livre sur un sujet?
Honnêtement, c'est pas la peur du procès, parce que moi j'ai écrit un livre sur Pasqua, j'ai eu 17 procès. Donc les procès, je suis habitué. Bon, c'est pas. Non, franchement, je crois que c'est un peu prétentieux, mais c'est une espèce d'éthique de l'information, de la production de l'information. On peut mettre en cause les gens que si. Qui sont des éléments bon, qui font que dans un débat public, bon, on peut prouver ce qu'on avance. Il faut prouver ce qu'on avance. Bon.
Voilà. Et donc en fait le but du jeu, c'est pas d'éviter le procès, c'est de le gagner. Et donc on est assez confiant là-dessus. Mais il nous l'a dit, parce qu'on l'a vu deux fois, il nous l'a dit la dernière fois, écoutez, avec son ton comme ça un peu hautain et prétentieux, écoutez, je n'hésiterai pas à vous faire des procès, tous les procès qu'il faudra, donc une espèce de menace comme ça. Mais il disait, en même temps, le procès, je ne vous le ferai pas tout de suite, je vous le ferai dans longtemps. Quand vous ne serez plus en librairie, j'ai pas envie de, en faisant un procès, de vous faire de la publicité. Et en attendant de vous faire un procès, je vais vous étouffer. Et c'est ce qu'il essaye de faire, c'est ce qu'il fait assez bien. C'est-à-dire qu'on est assez. On vous remercie de nous avoir invités ce soir, mais on est assez peu invités et on est assez ignorés par la grande presse, par les grandes chaînes de télévision. Et c'est pas un hasard du tout. Il y a des papiers qui. Des articles sur notre livre qui sautent dans quelques journaux.
C'est très intéressant de dire la géographie des espaces où, qui se sont fait l'écho de notre livre. Par exemple, il y a beaucoup les. C'est la fête, il y a beaucoup les sites internet, il y a les blogs, il y a la presse gratuite. Bon, c'est malheureux, mais on était aussi bien dans 20 minutes que dans métro. Bon, il y a aussi. La presse, j'allais dire le camp du non dans la presse. Quoi. Il y a la presse d'extrême droite et d'extrême gauche. C'est à fait. On a eu des papiers à l'extrême droite dans une minute. Je ne mets pas l'extrême droite et l'extrême gauche dans une espèce de faux équilibre, hein, je précise. Mais de fait, on a eu des papiers dans à l'extrême droite et on a eu des papiers dans la presse de gauche plutôt partisan du non. C'est vrai. C'est à fait. On n'est pas dans le mainstream, enfin, dans le courant dominant. Quoi.
Parce que le mainstream, le courant dominant. Les journaux respectables, les médias respectables, mainstream, ils hésitent beaucoup à parler de ce livre. Ils n'osent même pas poser des questions à Bernard-Henri Lévy sur les éléments qu'on a.
Parle d'eux, ce livre. Ça parle de leur façon de fonctionner. Et ça, ils veulent donc pas avoir ce miroir. On a, vous parliez tout à l'heure du directeur de l'antenne le matin, là, France Inter.
Stéphane Paoli.
On sait qu'il n'a pas voulu ouvrir le livre.
On lui a présenté, quelqu'un l'avait lu autour de lui, il lui a dit « lis ça, c'est vraiment très bon ». Il a répondu « je veux même pas le lire ». Il ne faut pas tenter, je veux même pas le lire.
Pas de miroir.
Voilà, je ne veux pas savoir.
Oui, pas de miroir, c'est effectivement ce qui est un ressort. Et d'autant plus quand... vous prenez, comme on l'a dit un petit peu tout à l'heure, mais vous prenez toutes ces précautions quand même c'est argumenté le livre, donc
c'est enquêté, ouais.
Voilà, c'est enquêté. On a on parlait de elle tout à l'heure. Il y a quand même un passage, par exemple, dans elle. Bon, il y a comme ça un certain nombre de choses et aucune personne. C'est vrai que nous, moi, j'ai pas vu beaucoup d'articles, ou très peu, donc là, vous venez de le décrire, mais dans la presse, alors que la presse elle-même, habituellement, est friande de choses comme ça, de livres contre des personnages médiatiques, d'où la particularité, quand même, de ce personnage, où les gens s'auto-censurent, finalement.
S'auto-censurent, complètement. Mais on a un exemple très, très récent, là, parce que, évidemment, ce livre a été... un peu, on va dire, enfin, est mal vendu par la FNAC. La FNAC, c'est François Pinault, c'est BHL. Bon. Par hasard, on est assez mal vendu. On ne nous trouve pas souvent en province, ou on nous trouve, mais il faut en chercher dans tout le magasin. Bref. Donc, à un moment donné, on a tapé un peu du poing sur la table. Et même l'Agence France Presse, l'AFP, s'en est fait écho. Du fait qu'on,
il fait une dépêche hier.
Qu'on était un peu boycotté par la FNAC. Bon, donc ça, c'est une vraie information qui doit intéresser les journalistes. À côté de ça, il y a un autre livre qui sort aussi en ce moment, qui parle du guide du routard. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais qui a aussi beaucoup de problèmes avec les avocats du guide du routard, parce que c'est une enquête très critique. Machin. Et bien là, ce cas guide du routard, ça fait une page dans Le Monde. Notre livre à nous, il fait 10 lignes. Et 10 lignes sur le thème circulaire, il n'y a rien à voir. Quoi, mais...
Parce que c'est une enquête contre le patron du guide du routard. Bon, le patron du guide du routard, il ne gêne personne, il n'a pas de réseau dans la presse et médias. Donc. Bon, au contraire, la presse est contente de montrer qu'elle valorise des livres d'enquête. Et même Fogiel a invité l'autre journaliste, qui est un bon journaliste, hein, qui a fait un bon livre, parce qu'il y avait de quoi, les conditions de travail des salariés du guide du routard. Enfin, c'est épouvantable, quoi. C'est vraiment de l'esclavagisme total, quoi. Donc, mais alors là, la presse peut, parce que bon, parce qu'on immole sur l'hôtel médiatique le patron du guide du routard, tout le monde s'en fout, quoi. C'est-à-dire, bon, il a peut-être deux copains vaguement dans un, mais sinon, bon, donc, alors que Bernard Olivy, non, parce qu'il est au cœur du système.
D'autant plus que là, en ce moment, il y a eu un autre livre qui est sorti sur BHL, mais là, coup sur coup, il y a deux ou trois mois, c'était le B.A.B.A. de BHL.
Oui, c'était il y a un an, qui était un très bon livre, mais qui était sur le terrain des idées, du débat d'idées avec BHL, qui est un très bon livre et qui a eu le même traitement que le nôtre dans la presse.
C'est-à-dire l'omerta.
Alors, on va revenir sur le fond de BHL, mais juste avant ça, on va écouter la chanson que Noël Godin, le fameux entarteur, il y a un enjeu autour de cette chanson, c'est le chapeau de Zozo. Vous pouvez peut-être nous expliquer, c'est dans votre livre qu'on a appris ça.
Oui, tout à fait. C'est que Noël Godin a entarté à de nombreuses reprises BHL et BHL, à un moment donné, ne comprenait pas pourquoi et donc cherchait à obtenir, à négocier une espèce d'armistice avec Noël Godin. Et Noël Godin, en direct à la télé, sur Canal+, je crois, lui avait dit, écoutez, on arrêtera d'entarter BHL le jour où il chantera avec sa femme Ariel Dombal, en direct à la télévision, as-tu vu le chapeau de Zozo? Voilà.
En voyage ou au cinéma, vous avez vu l'Himalaya, l'Acropole et Pompéi, l'Espagne au ciel fleuri. Vous avez vu Londres et ses Miss, Bruxelles et son mannequin fils, jusqu'aux îles Hawaï, c'est beau, très joli. Mais tout ça, voyez-vous, ce n'est rien, monsieur, rien du tout. Je connais beaucoup mieux. Avez-vous vu le nouveau chapeau de Zozo? C'est un chapeau à babo rigolo. Sur le devant, on a posé trois plumes de paon. Et sur le côté, un amour perroquet. Pour être original, il est, ça je vous le jure, ce n'est pas le pipi de n'importe qui. À le voir si beau, tout Paris répétera bientôt. Avez-vous vu le chapeau de Zozo? À première vue, il surprend, il est un peu extravagant. Ne dites pas que je vous l'ai dit, il sort chez Monoprix. Aussi, quand je passe à son bras, on fait oh oh, on fait ah ah, mais croyez bien que j'en suis pas plus fier pour cela. Mais depuis, dans mon quartier, ce n'est plus qu'un cri. Tous les gens parlent de lui et l'on dit, avez-vous vu le nouveau chapeau de Zozo? C'est un chapeau à papo rigolo. Papa sur le devant, on a posé trois pubs de pan. Et sur le côté, un amour de perroquet. Pour être original, il laisse, je vous le jure, ce n'est pas le pipi.
Voilà, c'est une programmation musicale de haut niveau ce soir dans Les Oreilles Loin du Front. On est toujours en train de discuter du livre Une imposture française avec Nicolas Beau et Olivier Tosser. Cédric, tu voulais...
Oui, donc vous avez dit tout à l'heure donc, que le B.A.B.A. du BHL, c'était plutôt sur le fond et vous, plutôt du coup, sur la forme, sur ses réseaux, etc. En même temps, on peut se demander aussi s'il n'y a pas quand même un lien entre les deux, quoi, c'est-à-dire entre les amitiés qu'il a et le fond qu'il défend. Donc on sait bien qu'il a émergé dans une critique très claire du mouvement de 68 et de ses philosophes. Ça s'est matérialisé notamment au début des années 80, et tout ça c'est poursuivi. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quand même derrière ça l'idée d'une défense, pour le dire vite, d'une défense d'une philosophie très libérale et on va dire en tout cas très critique à l'égard des mouvements sociaux, on va dire.
Oui, alors non, il y a une constante dans les intérêts de BHL, c'est qu'ils ne s'intéressent absolument pas à toute la question sociale, aux mouvements sociaux, à la condition de vie des gens, etc. Et tout ce qui tous ces sujets qui sont quand même importants dans le débat public, ça, le sort des services publics, la vie politique, enfin, au sens vraiment essentiel, ça lui est totalement indifférent. Il a des préoccupations d'un homme de l'establishment, et c'est sûr que, par rapport à ça, son champ est très limité. Alors après, par rapport à ce qu'a pu être sa critique du marxisme, notamment, ou de mai 68, etc. Honnêtement, moi, je me sens pas capable de discuter de la pensée, si pensée il y a, de Bernard Olivier. J'ai pas les armes, quoi.
Olivier, peut-être ?
Oui, enfin, moi, je dirais un petit peu la même chose. On est des journalistes d'enquête, donc on est resté sur ce terrain-là qu'on maîtrise, justement, que lui ne maîtrise pas, mais que nous aussi. Lui, c'est un intellectuel, il se prend pour l'intellectuel. Nous, on ne l'est pas, donc on n'a pas voulu le critiquer là-dessus.
On a pointé son opportunisme, quand même, par exemple, voilà. dans le premier journal qu'il avait lancé, d'ailleurs, avec l'argent de son père, qui s'appelait L'Imprévu. Un jour, il va défendre la bande à Bader, qui était quand même les plus sanguinaires à l'époque des mouvements dits gauchistes. C'était quand même des gens qui avaient des positions extrêmement, extrêmement dures. Il va faire un plaidoyer pour la bande à Bader. Et le lendemain, il va dire tout le bien qu'il pense de François Giroud, ministre giscardienne. Bon, alors, donc, voilà. Donc, de ce point de vue-là, c'est vrai qu'on ricane dans le livre un peu de cet opportunisme absolu, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a des constantes, ce que vous disiez, dans ses livres, dans sa pensée, entre guillemets. Et ça, honnêtement, moi, je me sens pas apte.
Non, on sait juste d'où il vient, on explique d'où il vient, son milieu social et son expérience de la vie. Donc, c'est un héritier né avec une cuillère dans la bouche. C'est sûr qu'il a une philosophie très libérale. C'est sûr que ses principaux ennemis, son camp ennemi, c'est les altermondialistes. Ils détestent ça. Les anticapitalistes, ils détestent ça. Parce que dans sa pensée, un peu dans sa logorée béhélienne, altermondialiste, ça veut dire anticapitaliste, donc ça veut dire contre l'argent, donc ça veut dire contre les juifs, ça veut dire antisémite. C'est n'importe quoi.
Non, mais c'est ça. Il a une expression terrible, lui et ses proches, quand ils veulent parler vraiment justement de ces militants qui méprisent, ils disent oui, c'est le courant maison de la culture, alors que c'était quand même une grande création de Malraux à l'époque de Gaulle. C'était quand même une magnifique utopie, quoi. Bon, et qui a quand même eu quelques résultats. Bon, et ça, pour lui, c'est le comble de l'insignifiance et de la vulgarité. Voilà. Mais la vulgarité, elle est chez lui, elle est de son côté, quand il dit ça.
Alors, vous revenez tout de même dans votre livre dans les années 80, l'épisode des contre-races. C'est assez saisissant. D'abord, comment prendre une position telle que celle-là, c'est-à-dire un soutien aux contre-races au Nicaragua, alors qu'il y a une espèce de révolution sociale qui a lieu là-bas, et en même temps dans un contexte étrange, avec des proximités, avec des agences américaines.
Oui, tout à fait. C'est ce qu'on a enquêté beaucoup là-dessus, sur cette pétition qu'il a signée dans les années 80 en faveur des contre-races que personne ne voulait financer, même pas le Congrès des États-Unis. Et donc, il a donné ensuite l'affaire Conseil, le financement des contre-races par le trafic de drogue. Enfin, bon, bref. Et donc, il a signé cette pétition pour les contre-races. Nous, on lui a demandé, mais pourquoi vous l'avez signée ? Il commence à dire, je ne l'ai pas signée. En fait, quelqu'un a usurpé mon nom. Alors on lui a dit, mais pourquoi vous n'avez pas protesté ensuite si on avait usurpé votre nom ? Et là, il ne répond plus, il ne sait plus. Et après, en enquêtant sur cette pétition pro-contrace, on s'aperçoit que, oui, divulguée, en tout cas préparée par des organisations très proches de la CIA, dirigées par un ancien de la CIA, et qui défendait les positions de l'unique CIA, justement, aux États-Unis, puisqu'il n'y a que la CIA qui voulait les éléments les plus durs de l'administration Reagan, et la CIA qui voulait financer les contrats. Et même le Congrès des États-Unis ne le voulait pas. Donc, Donc ça reste un mystère, on peut juste donner sa réponse à lui, c'est de dire qu'il ne l'a pas signé, mais on sait très bien qu'il était tout à fait au courant, il l'a signé, il n'a jamais protesté, il n'a jamais demandé qu'on enlève sa signature, voilà, il dit c'est une erreur, mais c'était il y a longtemps, l'encre est si vite sèche.
Ah oui. c'est une expression assez incroyable et qui revient plusieurs fois, c'est que l'encre sèche vite, donc ce qui a été écrit n'a pas...
On peut dire n'importe quoi.
Ce qui, point intellectuel, est embêtant quand même, un petit peu, mais bon.
Et alors, c'est aussi une... D'après vous, comment il choisit, parce qu'on a l'impression d'avoir affaire à un entrepreneur, de quelque part, un entrepreneur...
Il lui arrive d'écrire des livres de temps en temps entre deux business.
Ouais, mais de se mobiliser en tout cas pour quelques causes par-ci par-là. Alors comment est-ce que d'après vous il a une stratégie particulière, une...
L'opportunisme, c'est vraiment très très clair. Les causes qu'il défend sont des causes extrêmement consensuelles. Tout le monde est d'accord. Quand on dit est-ce qu'on est pour la paix en Irak, oui, on est. Nous on est pour. Est-ce qu'on est pour la paix au Proche-Orient, oui, nous on est pour. Alors lui il est pour aussi, donc on est voilà. Donc c'est toujours des causes tout à fait mainstream, tout à fait consensuel, qu'il défend avec une grande vigueur, avec beaucoup de gestes, avec les bras. Mais jamais, il ne s'attaque jamais à une cause qui peut être un peu, comment on dit en télé, qui peut segmenter. Il peut y avoir ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Non, il prend que des causes très consensuelles.
Alors par exemple, il y a quelques temps, son avant-dernier bouquin, c'était sur Daniel Pearl. Il y a une phrase, je crois, au tout début, hein, de la femme de Daniel Pearl que vous avez contactée pour qu'elle
qui nous a envoyé un long email. Cette phrase formidable. Elle dit, on sent à travers ce qu'elle dit qu'évidemment elle n'a pas beaucoup de sympathie pour Bernard Lévy, et elle dit cet homme dont l'ego a détruit l'intelligence. Et je trouve que c'est formidablement résumé le personnage.
Parce que, en fait,
personnage.
Elle a considéré que Bernard-Henri Lévy avait quelque part volé son mari. Et on raconte dans le livre très, très concrètement qu'il y a une chose qui l'a extrêmement choquée. C'est qu'elle avait demandé une espèce de respect pour la mémoire de son mari, que l'on ne parle pas et que l'on ne décrive pas et que l'on ne diffuse pas la cassette de l'égorgement, parce que Daniel Pearl était un journaliste américain qui a été égorgé au Pakistan dans des conditions extrêmement effroyables. Elle ne voulait pas qu'on décrive cet acte barbare, absolument. Elle l'avait dit à Bernard-Henri Lévy, et Bernard-Henri Lévy n'en a tenu aucun compte, c'est-à-dire que ça fait des pages et des pages dans son livre, et à chaque fois qu'il allait en promotion sur les chaînes de télé, aussi bien en France qu'aux États-Unis, il s'arrangeait pour qu'on rediffuse des extraits de cette cassette, contre donc la volonté de Marianne Pearl. Elle s'est sentie, on peut le comprendre, entièrement blessée, et à partir de là, elle est restée digne, parce qu'elle n'a jamais critiqué publiquement BHL jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à notre livre. Là, avec nous, elle a enfin résumé sa pensée sur BHL.
Ce quartier qui résonne dans ma tête, ce passé qui me sonne et me guette, ce boulmiche qu'a de la ligne en automne, ce sandwich qui s'aligne monotone, quartier latin, quartier latin, quartier latin. Chez Dupont, ça traînait la journée. C'était le pont qui durait toute l'année. L'examen, ça tombait comme une tête. Au matin, sans chiquet ni trompette, quartier latin, quartier latin, quartier latin. Cette frangine qui vendait sa bohème, et ce spleen qui traînait dans sa traîne. J'avais rien, ni regret, ni principe. Les putains, ça me prenait comme la grippe. Quartier latin, quartier latin, quartier latin.
Et vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, dans les oreilles loin du front. Nous sommes avec Nicolas Beau et Olivier Tausserre et nous parlons d'une imposture française nommée BHL. Alors, on était aux États-Unis un petit peu avec Daniel Pearl. Donc, BHL vient de sortir un bouquin, American Vertigo, qui vient de sortir il y a quelques jours, avec une publicité à la hauteur de ses réseaux, très certainement, et avec notamment plein de citations de journaux américains, élogieux évidemment à l'égard de ce livre. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire et qu'est-ce qui s'est dit aux États-Unis du livre de BHL et de sa tournée, qui a été aussi une tournée très médiatique aux États-Unis?
BHL s'est fait massacrer littéralement par la critique américaine. C'est pas seulement moi qui le dis, et c'est pas seulement le livre qui le dit. Tout le monde peut le vérifier, tous les auditeurs qui nous écoutent ici peuvent le vérifier. S'ils ont Internet, voilà, il suffit d'aller voir les articles dans la grande presse américaine. Donc, tous les grands journaux américains, et notamment le New York Times, USA Today, le Washington, Los Angeles Times, pardon, et plein d'autres, l'ont massacré.
Le New York Times, c'est une très jolie critique. Il a dit, Olivier a découvert qu'il y avait des obèses aux États-Unis, mais en revanche, il ne nous parle pas beaucoup des révoltes dans les banlieues françaises, parce que nous, on est obsédés par la question suivante. Est-ce qu'il y a des obèses dans les émeutes en France?
Donc, il n'a pas du tout été pris au sérieux. Il y a eu un petit phénomène médiatique, parce qu'il était... son éditeur, c'est le plus gros éditeur américain, qui avait décidé de faire un coup pour voir est-ce que ça marche, est-ce que ça prend. Et donc, il a été très poussé. Il avait un énorme budget de promotion. Il a fait une tournée. Les gens venaient par curiosité le voir. Par curiosité, juste. C'est-à-dire qu'un mois après la sortie de son livre aux États-Unis, il est sorti fin janvier, un mois après, il était en solde chez Barnes & Noble à New York. Donc, la grande librairie new-yorkaise pour écouler les stocks. Donc, il a raté son pari. Ensuite, il arrive en France avec son livre et veut nous faire croire que c'est un best-seller aux États-Unis. Alors c'était très marrant parce que dans une page de publicité qui s'était offerte dans Libération, il se déclarait qu'il avait été numéro un au Boston Globe, au classement du Boston Globe. On a juste vérifié, là aussi tout le monde peut le faire par Internet, il n'y a pas de classement des ventes dans le Boston Globe. Ça n'existe pas, juste. Donc il l'a inventé.
D'accord. Jérémy ?
Oui, moi je voulais vous poser une question. J'ai pas lu le livre.
Mais attends,
ouais, ouais, on en a plein en plus.
Oui, bah oui, c'est ce que je vois. Il y a un gros service de presse aux arènes. je voulais savoir, est-ce que c'est pas un non-événement ce livre? Je vais être, voilà. Et sachant que tous les deux vous êtes dans des médias complètement indépendants, pourquoi avoir choisi BHL et pas un sujet justement vraiment polémique où vous avez tous les moyens que vous avez aucune pression pour pouvoir enquêter à fond sur un sujet autre que BHL? Parce que là, le prochain bouquin, c'est sur quoi? C'est sur PPDA?
Je pense qu'il faudrait faire des livres sur effectivement toutes les vedettes des télés, parce que vu leur pouvoir aujourd'hui, personne n'enquête sur PPDA, personne n'enquête sur Ardisson, personne n'enquête sur...
Mais est-ce que c'est vraiment intéressant d'enquêter sur Ardisson?
C'est intéressant
et sur PPDA,
parce que ce sont eux qui fabriquent l'opinion aujourd'hui. Il faut voir comment, qu'est-ce qu'ils ont dans le crâne, comment ils fonctionnent, comment ils travaillent. C'est quand même... Oui, c'est très, très intéressant. Quand on a... J'ai appris récemment que M. Ruquier, quelquefois... pour passer à l'émission de Ruquier, il y avait des intermédiaires qui prenaient un peu d'argent en cash et puis qui ensuite connaissaient du monde chez Ruquier et hop, on passe chez Ruquier. Enfin, on vit dans un monde, c'est ce monde-là qui fabrique l'opinion, c'est ce monde-là qui fait vendre les livres. Bon, alors un livre peut avoir de l'influence, même s'il se vend 500 exemplaires. Je veux dire, c'est un livre qui reste, qui est important, mais quand même, on est une démocratie, le nombre, ça compte aussi, malgré tout. Bon. Et donc, non, je trouve que c'est des sujets absents. Alors, ce ne sont pas les seuls. Bien sûr. Bon, nous ne sommes que de modestes journalistes, donc on ne peut pas tout faire à la fois. Mais la raison, il y a plein d'autres choses, peut-être au moins aussi passionnantes, voire plus. Hein, je ne dis pas le contraire, mais bon.
Là, c'est un livre, on voulait faire un livre sur le fonctionnement des médias en France, parce que c'est important, le fonctionnement des médias en France. Voilà, on l'a fait, on ne va pas en faire 36 non plus, hein, mais, parce qu'on a l'impression... qu'on a assez bien décrypté comment ça se passe à travers l'exemple de BHL, parce que en fait au fond pour tout vous dire, pour faire une confidence, Bernard-Henri Lévy, on s'en fiche complètement. Il faut bien le dire. C'est juste prendre son exemple pour décrire comment fonctionnent les médias en France aujourd'hui qui nous a intéressés. Parce que lui, franchement.
Alors, juste une dernière question qui peut-être pourrait être, apporter une longue réponse, mais il faudra qu'elle soit courte puisque nous allons bientôt devoir passer l'antenne à l'émission qui suit. Est-ce que le réseau de BHL peut un jour s'écrouler et BHL disparaître complètement de la scène médiatique?
J'ai pas l'impression. J'ai l'impression que c'est un système assez indestructible. En fait, et on le voit même avec la sortie de notre livre, la façon dont il est pris, où on en parle ou on n'en parle pas, qui en parle, qui n'en parle pas, le réseau, la digue tient bien. Donc le système semble assez indestructible, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas le décrypter, et que c'est pas utile de le décrypter, mais ça tient.
D'accord, bon, donc Noël Gaudin a du travail devant lui, encore pour de longues années.
Alors il y aura plein, il y a d'autres choses moi dont j'aurais aimé parler, mais c'est aussi le regard que vous pouvez porter sur justement au-delà du phénomène BHL sur la concentration assez impressionnante dans les médias. Alors peut-être qu'en 1 minute 30 ça va être un peu compliqué de répondre là-dessus, mais en tout cas moi j'ai lu votre livre comme ça, comme aussi un des symptômes de plus on concentre les médias dans les mêmes mains, plus
et l'édition.
Et l'édition, plus à un moment donné, la critique sociale, tout un tas de choses deviennent périlleuses, et plus les espaces, enfin, c'est gentil, mais le contrepoids aux radios, ça va pas être nous, et le contrepoids à 80% de la presse aux mains des vendeurs d'armes, ça va difficilement être les journaux dans lesquels vous bossez, et ça va pas être Zalé à TV. C'est sûr qu'il va faire contrepoids à TF1. Ça devient compliqué. Voilà, mais c'était moi c'est en tout cas dans cette perspective-là que j'ai lu ce livre qui s'appelle donc Une imposture française de Nicolas Beau et Olivier Tosser. C'est publié aux Arènes et c'est pas très cher, 14,90 €.
Juste une petite intervention, et on prolonge le livre aussi sur le site des Arènes, justement, www.arènes.fr, où on tient pratiquement tous les jours une chronique BHLienne où on décrypte justement le traitement, la promotion de son dernier livre justement, et qui en parle, pourquoi, comment.
À plus.
Okay. On approche, Chico, attention, enclenche les rétrofusées.
C'était une nouvelle édition des Oreilles Loin du Front. On se retrouve la semaine prochaine à partir de 19h sur cette antenne. Et cette fois-ci, on devrait parler, si tout va bien, du Venezuela, avec de nouveaux convertis qui viendront nous parler de ce qu'ils ont vu lors de leur précédent voyage ou reportage au Venezuela. Si vous voulez retrouver cette émission, c'est possible, vous pouvez même la podcaster, c'est pas rien ça, vous pouvez podcaster l'émission sur 3W, non il n'y a pas
du tout,
c'est http://loldf.free.fr, loldf comme les oreilles loin du front, .free.fr, et là-dessus vous retrouvez avec moins de 6 mois de retard tous les dossiers des émissions, et puis les chroniques qu'il y a eu, et puis tous les livres qu'on a cités sont dans une rubrique aussi. Voilà, ce soir autour des micros, autour des boutons, on avait Jérémy, Fred, Guillaume, Cédric et puis une paire de Juliette. On se retrouve la semaine prochaine, d'ici là on vous abandonne dans les bras d'Écho du Capricorne. Il y avait Alex aussi. Oui.